Bonjour, bonsoir, ça dépend de quel côté de la planète vous vous trouvez, à quelle heure vous nous regardez, bienvenue sur BTLV. Dans un instant, je vais avoir le plaisir de recevoir Mauro Biglino. Ensemble, nous allons évoquer la Bible et sa version de la Bible et son interprétation. Mauro est historien, universitaire, traducteur et auteur spécialisé dans la traduction des premiers codex bibliques en hébreu ancien. Ses connaissances linguistiques et philosophiques qu'il a acquises grâce à l'étude de l'hébreu massorétique lui a porté une maîtrise totale de tous ces textes qu'il a eu devant les yeux. Et ils sont rares ceux qui ont eu tous ces textes devant les yeux. Bonjour, buongiorno Mauro.
Bonjour à toi, bonjour à tous.
Ravi de vous accueillir sur BTLV. Alors, on va évoquer cette Bible, votre interprétation de la Bible, en tout cas ce que vous avez compris en lisant et en traduisant les textes bibliques, et puis ce que le Vatican, en tout cas les instances religieuses, ont bien voulu nous faire partager dans ces écrits.
J'ai traduit la Bible pour le compte des éditions Saint-Paul, qui est la plus grande maison d'édition catholique.
Alors, ce qui est intéressant, Mauro, en fait, dans votre histoire, c'est que dès que vous avez voulu parler de ce que vous aviez compris des textes, vous avez perdu le contrat, visiblement, avec les 7 boîtes d'édition. Ce qui peut se comprendre aisément quand on voit la vision et la lecture que vous avez de la Bible et celle qu'on a bien voulu nous imposer. Alors, est-ce que vous diriez, Mauro, finalement, que l'histoire qu'on nous enseigne depuis tout petit, quand on est chrétien, ou d'ailleurs... qu'on est religieux, et quelle que soit la religion, finalement, c'est une vraie interprétation idéologique, et finalement, les mots qui sont donnés dans la Bible n'ont pas la même signification quand vous les traduisez.
Oui, j'ai traduit pour cette maison d'édition qui a publié 17 livres de l'Ancien Testament. Je les ai traduits de l'hébreu. Cette traduction dresse un tableau tout à fait différent de ce que nous connaissons jusqu'alors. Ma méthode, celle que j'utilise depuis 2010, consiste à feindre que les faits que nous rapportent les auteurs antiques ont été véridiques et conformes à la façon dont ils nous les rapportent, tandis que les autres traductions partent du principe qu'il y a toujours un message sous-jacent.
Alors, Mauro, qui a choisi cette version? Parce que la Bible dont vous parlez, elle date du 7e au 9e siècle, entre 600 et 800... du côté des Carolingiens, des Mérovingiens, mais qui a décidé de la version officielle de la Bible?
Eh bien, il y a beaucoup de versions de la Bible et le courant religieux a choisi la sienne. La version de l'Église catholique a été choisie par l'Église romaine. Ma traduction, elle, se réfère au texte le plus complet, qui a été écrit en hébreu, qu'on appelle massorétique.
On vous a connu, Mauro, sur le chemin de l'ufologie, qui est absolument incroyable, parce que vous dites vous-même que vous n'êtes pas ufologue, que vous vous intéressez pas plus que ça aux ovnis, que vous n'avez jamais vu d'ovnis, et malgré tout, votre interprétation et traduction, ce que vous comprenez de la Bible, vous emmène inévitablement vers ces chariots de feu dont on va reparler, vers ces êtres venus d'ailleurs.
Alors moi, je ne m'occupe absolument pas des ovnis, je ne suis pas ufologue. Je me contente de lire et de raconter ce qu'il y a décrit dans ces textes. Et la Bible contient un récit très concret. Elle parle clairement de machines volantes. Et moi, je me contente de rapporter tout ça, sans me préoccuper des ovnis.
Bien sûr que c'est ce que vous avez compris. Et on parle d'ailleurs de... Je vous ai lu et je vous ai écouté. Et vous parlez bien évidemment de ces fameux Elohim ou Rua. Et vous dites que souvent, ça a été traduit comme souffle de Dieu. Mais que finalement, ce n'est pas la bonne traduction et l'interprétation pour vous.
Alors, il faut dire très clairement que la confusion et les contradictions qu'on trouve souvent dans la Bible est qu'on ne parle absolument pas de Dieu. La Bible parle d'un groupe d'individus qu'elle appelle les Elohim.
Mais ce qui est absolument incroyable, Mauro, c'est que on parle bien sûr de ces des divinités, de ces Elohim qui seraient venus sur la terre, et on parle quand même, vous repérez dans la Bible des termes comme naus sidéral, soit vaisseau spatial, et puis la vraie question que l'on peut se poser quand on vous écoute, quand on vous lit, c'est finalement qui nous a créés ? Est-ce que ces Elohim nous ont créés ? Est-ce qu'ils nous ont aidés ? Est-ce qu'on a passé un pacte avec eux ?
Alors, la Bible nous dit clairement que ces Elohim ont fabriqué, pas créé, un travailleur. Ils nous ont créés pour que nous travaillions pour eux. Ils nous ont fabriqués avec l'ingénierie génétique. La Bible et les Juifs le disent clairement dans leur texte.
Est-ce que finalement, nous serions les Dolly, vous vous rappelez de cette brebis de Dolly qui avait été clonée? Malgré tout, le clonage de Dolly a nécessité bon nombre d'expérimentations. Je crois qu'il y en a plus de 400. Est-ce qu'il y a eu des expérimentations en laboratoire avant qu'on arrive à ce que je suis aujourd'hui?
Les textes les plus anciens de la Bible nous rapportent aussi des expériences ratées, mais ils ont persisté jusqu'à arriver à un résultat plus ou moins correct, constitué par nous-mêmes, de ce que nous sommes.
D'accord. Les Sumériens parlaient d'être, à propos de ces Elohim, d'être éduqués technologiquement. On peut imaginer que effectivement, s'ils avaient un laboratoire, ils avaient des techniques que nous n'avons pas ou que nous avons aujourd'hui, mais qu'on n'avait pas à l'époque. Mais ils les considéraient pas toutefois comme des dieux. C'est très important. Il y a un accord qui était passé entre finalement ces divinités, même si ils les appelaient pas dieux, entre ces Elohim et les humains.
Et dans la Bible, c'est la même chose.
D'accord. Dans la Bible, c'est la même chose. C'est-à-dire que ils disent la même chose. Donc on a passé un
La Bible dit la même chose. Les Elohim de la Bible sont comme des Anunnaki sumériens.
Alors, les Anunnaki, on en parle très souvent ici sur BTLV, ce sont eux qui auraient été donc à nos côtés pour devenir ce que l'on est devenu. Malgré tout, vous dites des choses très très importantes dans vos traductions. Et notamment sur l'importance de notre création. Il y a des choses comme l'argile. Alors j'ai noté des choses qui, comme l'argile dans vos conférences. J'ai noté également la traduction que l'on pouvait ou l'interprétation qu'on pouvait avoir aussi du bien et du mal, qui n'a rien à voir avec finalement ce que voulaient dire les Anunnaki. Alors d'une part l'argile, pourquoi ? Et pourquoi cette notion du bien et du mal pour vous est fondamentalement différente de celle qu'on veut bien nous inculquer?
C'est une histoire un peu longue, donc je vais la raconter petit à petit. Dans la Bible hébraïque, on ne dit pas que l'homme a été créé avec de l'argile. Il est dit clairement que pour cette planète, ils ont créé l'homme afar. Et ce mot, on peut le traduire par argile. C'est la création d'un modèle particulier, le modèle de l'Adam afar.
Je voulais qu'on parle, Mauro, du bien et du mal et de l'interprétation qu'on en a, nous, que la Bible en a fait, alors que pour vous, c'est juste autre chose et vous en avez traduit plutôt un choix, celui d'Adam et Ève.
La Bible parle de bien et du mal.
Je veux parler du bien et du mal. Quand la Bible parle de bien et de mal à propos d'Adam, elle ne veut pas signifier le concept moral de bien et de mal. Elle parle de bien et de mal d'un point de vue anatomique du corps humain, le fonctionnement du corps.
Je voulais qu'on parle, qu'on avance, et je voulais qu'on évoque un personnage très important, c'est Moïse. Moïse, vous dites qu'il n'est pas monothéiste et qu'il a passé un deal finalement avec, non pas Dieu quand il va sur le mont Sinaï, mais avec une de ses divinités, un de ses Elohim. Il aurait pu en choisir un autre, et il en a choisi un.
Si. Alors, ce n'est pas Moïse qui a choisi, mais c'est l'Elohim qui a pour nom Yahvé, qui a choisi Moïse pour construire un peuple et aller conquérir un territoire qui ne lui avait pas été attribué. Il a construit une armée pour aller conquérir la terre de Cana qui ne lui avait pas été attribuée. Sur ce point-là, la Bible est très claire. La Bible nous dit que Yahvé combattait contre les autres Elohim et tous ces Elohim combattaient pour conquérir ce territoire.
Est-ce qu'on peut dire, Mauro, finalement, que tout ce que l'on a dans la Bible, ce ne sont que des présomptions, en tout cas, est-ce qu'on peut dire qu'on sait quelque chose finalement ?
Alors, le message clair de la Bible est que cet Elohim, appelé Yahvé, qu'on a transformé en Dieu, s'occupe exclusivement de ce peuple qu'on nomme peuple d'Israël. Elle ne porte que sur Israël et non pas sur le reste du monde.
Le peuple d'Israël a une importance incroyable quand on parle d'Elohim, parce qu'ils auraient passé un pacte, peut-être, avec ces Elohim. Et surtout, on va revenir, puisque Moïse est le représentant du peuple de l'Israël quand il va sur le mont Sinaï, mais il en revient avec les tables de la loi, les 10 commandements. Est-ce que ces 10 commandements sont ceux qu'on a bien voulu nous faire avaler dans la Bible et au catéchisme, ou est-ce qu'ils avaient une autre signification?
Le pacte a été conclu entre Yahvé et la famille d'Israël, c'est-à-dire la famille de Jacob. Les commandements ne sont pas au nombre de 10, mais au moins de 613. Le reste du monde n'a rien à voir avec ces commandements. Ce reste du monde a été introduit par les théologiens ultérieurement. Je donne un exemple. Dans ces commandements, il y en a un qui dit qu'il faut aller faire ses besoins en dehors du camp et les recouvrir.
Donc on est bien loin finalement de l'interprétation de ces 10 commandements qu'on a bien voulu nous faire avaler, si je comprends bien, ça vient bien au-delà, c'est-à-dire que c'est presque comment vivre sur cette terre d'Israël.
Oui, nous sommes très loin de comprendre. Les interprètes ont complètement transformé ce livre, qui d'ailleurs ne devrait pas être adressé qu'à la famille d'Israël. La théologie a tout inventé pour faire croire que la Bible concernait toute l'humanité, mais c'est faux.
D'accord. Mauro, pourquoi les instances religieuses ont balayé, puisqu'on parlait d'ufologie tout à l'heure, quand vous parlez, même Ézéchiel dit avoir eu et avoir vu un chariot de feu, pourquoi avoir balayé ces êtres venus d'ailleurs ou dans notre monde, dans notre culture d'aujourd'hui, d'après vous?
La religion, si elle n'avait pas transformé les choses, n'aurait pu créer tout le système qu'elle a réalisé.
Est-ce que, d'après vous, Mauro, est-ce que vous avez compris, il y a un Dieu ou il y a plusieurs dieux?
Je ne peux pas répondre car je ne sais rien de Dieu. Moi, quand je ne sais rien sur quelque chose, je me garde d'en parler.
Est-ce que Dieu s'occupe de vous, d'après vous?
Je ne sais pas si Dieu existe, donc je ne peux pas dire s'il se soucie de moi. Quand je parle de la Bible, je ne dis pas que Dieu n'existe pas. Je dis simplement que la Bible ne se préoccupe pas de cette question. De même que les autres livres de l'Antiquité n'en parlent pas. Le fait de savoir si Dieu existe ou pas est une question de foi. Chacun doit vivre sa foi de manière personnelle, avec cohérence et détermination. Celui qui croit en quelque chose a raison de se comporter conformément à ses croyances. Moi, je parle simplement d'un livre qui ne parle pas de foi.
Mais vous vous rendez compte quand même que je comprends qu'aujourd'hui, le Vatican vous regarde d'une façon un peu particulière quand vous dites ça, parce que vous mettez un coup de pied dans la fourmilière, parce que vous remettez tout à plat, finalement. Sauf qu'on a basé toutes nos sociétés sur l'être ultime, on est le centre de l'univers, on est les plus grands, on est les plus beaux, on est les plus forts. Et puis finalement, dans vos traductions, on comprend qu'on est loin de tout cela. Et donc on est dans le mensonge perpétuel.
Siamo in un grande error.
Ah oui, clairement, nous sommes plongés dans une grande erreur. Nous sommes sur cette planète des descendants, des êtres fabriqués par ces Elohim en tant que travailleurs. Et le problème de l'origine de tout, c'est-à-dire de Dieu, parce qu'après tout, c'est ça qui intéresse les gens, le fait de savoir si Dieu serait à l'origine de tout ne doit pas être recherché dans la Bible, tout simplement parce qu'il n'y est pas.
Mais d'après vous...
Dans la langue hébraïque, il n'existe pas de verbe qui signifie « créer ».
Que significa creare dal nulla. Non esiste.
D'accord. Donc ça c'est très important parce que ça veut dire que finalement nous avons été non pas créés mais peut-être améliorés et jusqu'à ce que l'on ressemble à ce que l'on est aujourd'hui. Mais on se demande effectivement si vous, avant cette traduction, avant vos travaux, vous pensiez que nous étions seuls dans l'univers. Est-ce que ça vous a ouvert à vous le champ des possibles?
Eh bien, moi, je pense que statistiquement, il est impossible que nous soyons seuls dans l'univers. Il existe des millions de planètes, donc il est impensable que la vie se soit développée que sur notre Terre.
Oui, mais est-ce que ce sentiment...
À la différence de beaucoup, je n'ai jamais rien vu, ni d'OVNI, ni de vaisseaux spatiaux. Je ne peux pas vous dire que j'ai vu quelque chose, ce serait faux. Tout ce que je dis ressort des textes que j'ai traduits. Le sentiment de ne pas être seul m'a été conforté par la traduction que j'ai faite. Ce qui n'était qu'une sensation est devenu une certitude.
Vous parlez de quelque chose, je vous ai entendu parler de quelque chose qui est assez troublant. Quand vous parlez des Anunnaki, des Elohim, c'est de la viande brûlée et de l'odeur de la viande brûlée. Et vous dites même que lorsque les Elohim sentent cette odeur ou quand ils voient de la viande brûlée, ils se jettent dessus comme des mouches. Pourquoi vous parlez de ça? C'est quoi? C'est un de leurs mets préférés?
Que loro volevano.
Alors, il faut distinguer clairement qu'ils voulaient qu'on leur offre en contrepartie de la graisse animale brûlée, car la fumée qui en émanait les calmait. La Bible dit clairement. Quand Noé brûle en sacrifice aux Elohim une grande quantité d'animaux, les récits sumériens qui rapportent la même chose, il est dit clairement que les Anunnaki sont attirés par cette fumée comme des mouches par la viande.
Les mosques sulla carne.
Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que...
Mais ça aussi, on ne le retrouve pas dans la Bible. On le retrouve dans les textes sumériens. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Hein.
C'est très important, d'autant que je vous ai entendu dire que la NASA avait demandé à un organisme ou à un fabricant de parfums de recréer une odeur de viande brûlée qu'on pouvait, qu'on injectait ou qu'on mettait dans les scaphandres des astronautes pour les calmer également.
Je l'ai écrit dans un de mes livres.
Donc voilà, vous vous rendez compte quand même que on vient de cette traduction biblique qui montre que en fait l'odeur de viande brûlée calme et cette même odeur on la met dans les scaphandres des astronautes pour que lorsqu'ils sortent en fait du véhicule spatial, il soit apaisé. C'est quand même absolument dingue. Et tout ça, ça vient et c'est écrit déjà dans les textes anciens. Alors, Mauro, il y a quelque chose que je voudrais évoquer avec vous. On a beaucoup parlé quand on parle de ces textes anciens et la vraie question, c'est l'hybridation. Est-ce qu'on a été hybridé? Est-ce que des Elohim se sont accouplés avec des terriennes? Et vice-versa, peut-être.
Si, le chapitre.
Oui, la Bible dit clairement que les Elohim mâles se sont accouplés avec les femmes d'Ama et qu'ils ont fait des enfants.
Et alors, ça a donné quoi ?
Dans la Bible, au chapitre 6 de la Genèse, on dit que ces enfants sont les héros de la mythologie, Hercule, Achille, etc.
Vous évoquez de la technologie, je vous ai vu, et notamment ce que vous appelez, ou ce qu'on appelle, ou ce que vous avez lu, qui s'appelle l'éphod, qui serait comme une radio militaire qui permettrait la discussion entre certains hommes et ces divinités.
La Bible est clarissime.
La Bible est très claire sur ce point et elle le rapporte plusieurs fois. Quand David est en prière et qu'il a besoin de parler avec Yahvé, il se fait une éphod. Sans ça, il ne peut pas communiquer avec Yahvé. Ceci, vous pouvez le trouver dans la Bible française, comme tout ce que je vous ai dit d'ailleurs. C'est la viande brûlée aussi. À deux reprises, David, pour communiquer avec Yahvé, doit se faire apporter l'éphod. Sans ça, impossible.
Donc, on voit que de toute façon, il y avait une vraie frontière entre les dieux et puis les humains. La question que j'aimerais quand même poser à Mauro, c'est à quoi ils ressemblaient ces divinités? À quoi elles ressemblaient? Est-ce que ces Elohim ressemblaient à des humains? Est-ce qu'ils avaient deux bras, deux jambes? Quel était le physique de ces Elohim? Est-ce qu'on a une description un petit peu dans la Bible de ces êtres?
Le discours est molto intéressant.
Alors, cette question est très intéressante. En effet, ils ont eu des relations sexuelles avec des femmes. Il est clair qu'ils avaient une anatomie semblable à la nôtre. L'apôtre Paul, dans sa lettre aux Hébreux, dit que beaucoup, parmi les Juifs, ont donné l'hospitalité à des Elohim, sans le savoir, tant ils étaient semblables à nous.
Pourquoi nous ont-ils abandonnés?
Je vais vous lire un passage de la version française de la Bible.
Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité.
D'accord, c'est ce qui a marqué
dans votre Bible.
Dans une Bible française. Donc c'est marqué également. Alors, pourquoi, d'après vous, Mauro, ils nous ont abandonné ces êtres? Ou est-ce qu'il y a encore sur la Terre des descendants de ces Elohim, puisqu'il y a eu accouplement? Donc on en fait tous peut-être un peu partie, mais pourquoi sont-ils, eux, pourquoi ont-ils quitté le vaisseau Terre?
Alors, io ovviamente non ho...
Alors, je ne peux pas me prononcer sur l'existence réelle des Elohim, car je n'ai pas de preuves. Mais le jour où on découvrira qu'ils sont encore là, et que ce sont eux qui sont à l'origine de tout, je ne serais vraiment pas étonné.
D'accord. Donc là, on en revient à des thèses très, très, très ufologiques, qui diraient qu'effectivement, ces êtres venus d'ailleurs sont peut-être dans ce qu'on appelle ce fameux gouvernement mondial qui dirigerait un peu la planète. Mais ça, c'est encore une fois, peut-être l'avenir qui nous dira si c'est vrai ou si c'est faux. Mais on se demande d'ailleurs pourquoi, s'ils sont venus, pourquoi ils sont partis. Mais c'était la question initiale. Effectivement, pourquoi sont-ils venus? Pourquoi nous ont-ils aidés à évoluer? Est-ce qu'ils nous, d'après vous, est-ce que vous pensez, après, avec tous les textes que vous avez vus, que on a un peu leur gosse, leur garnement? Est-ce qu'ils nous regardent un peu? Ils sont plus évolués que nous, puisqu'ils nous ont aidés. Ils avaient des machines volantes. Ézéchiel le dit quand il dit « j'ai vu un chariot de feu », etc. Sont-ils plus évolués que nous et nous regardent-ils encore, d'après vous?
Se noi siamo un esperimento...
Eh bien, si nous sommes une expérience, il est clair qu'ils continuent à nous observer pour voir comment se déroule leur expérience. Pour moi, c'est un peu comme ce que nous ferons un jour sur une autre planète. Ils nous contrôlent s'ils existent, mais je répète encore, je n'ai pas de preuves. Je fonctionne par hypothèse. Bref, si, comme nous le disent les textes anciens, nous sommes une expérience, ils continuent de nous observer. Je tiens à répéter que c'est une pure hypothèse, car je n'ai pas la vérité.
L'évolution de cet expériment.
Est-ce que vous pensez, au fond de vous, que certains savent? On parle souvent, vous savez, d'une non-divulgation de vie extraterrestre, de peur de mettre à mal toutes les religions. Est-ce que vous pensez que des gens savent, cachent consciemment la vérité, et que ce soit des instances religieuses ou gouvernementales?
Les personnes qui si avvicinano a questi temi sono sempre di più.
Les personnes qui s'intéressent à ces questions sont de plus en plus nombreuses. Je pense que les religions cachent encore ces vérités, car elles doivent conserver leur pouvoir. Et je pense que d'ici 10 ans, les enfants de la génération d'aujourd'hui, ceux qui ont 10 ans justement, connaîtront la vérité. Nous devons savoir que c'est surtout en Occident qu'on cache ces choses, car en Orient, par exemple, on parle de cela avec grande liberté. Pour eux, il est évident et normal qu'il existe de tels êtres extérieurs.
Je vous parlais tout à l'heure des gouvernements. On a, quand on s'intéresse à l'ufologie... Je sais que ce n'est pas votre parti, mais quoi qu'il en soit, on a des témoignages incroyables d'engins venus sur la Terre, qui sont repartis, des expériences, ou en tout cas, qui ont été faites sur des humains, ce qu'on appelle des implants, etc. Est-ce que vous pensez que ces êtres viennent nous voir encore aujourd'hui? Même, vous disiez tout à l'heure qu'ils nous surveillent, qu'ils regardent un peu leur progéniture, entre guillemets, mais quand on voit les gouvernements ou... Où certains cercles militaires disent tout ça, c'est n'importe quoi, c'est une volonté de cacher de toute façon l'existence d'un monde autre que celui que l'on a sur la Terre.
Parce qu'altrimenti, quelli che hanno il potere adesso lo perdono immediatamente.
Si les gouvernements le cachent, c'est pour bien garder leur pouvoir.
Allora voi non contez nulla, perché quelli che veramente governano sono quelli che stanno sopra di voi.
Mauro, est-ce que ça a changé quelque chose en vous, tout cela?
Mi ha dato una grande libertà.
Tout ça m'a donné une grande liberté, ça me donne la liberté de vivre de manière encore plus intense.
Alors, ce que l'on sait aussi et ce que l'on apprend dans vos écrits, c'est que ces Elohim, ces Anunnaki, ont une fin. C'est-à-dire que ce sont pas des... on a toujours la sensation que Dieu est éternel, mais que ces divinités sont éternelles, alors que on apprend aussi qu'elles meurent. Et on ne parle jamais de la vie après la mort.
La Bible
Alors la Bible dit clairement que les Elohim meurent comme tous les hommes. On le voit dans le psaume 82, dans la traduction française. Les Elohim bibliques ne s'occupent pas de la vie après la mort, car la seule chose qui importe est ce qui naît, vit et meurt ici.
Le cycle.
Des amis juifs pratiquants me disent que eux non plus ne s'intéressent pas du tout à la vie après la mort, car leur Dieu ne s'en préoccupe pas.
D'accord. Alors, Mauro, on arrive au terme de cet entretien. Je voudrais vous remercier d'être venu ici sur BTLV. C'est vrai que c'est toujours un peu compliqué quand on ne parle pas la même langue, mais j'ai été ravi de vous avoir ici pour évoquer justement tous vos travaux concernant cette Bible, vos travaux sur cette traduction qui met à mal un peu la vision qu'on en a hein, quand on est chrétien, qu'on fait son catéchisme. On voit bien qu'il y a plusieurs lectures, c'est ce que vous avez compris dans vos travaux et c'est ce que vous avez retranscrit dans vos livres. Alors je voudrais vous remercier mille fois. Dernière question, Mauro, est-ce que... Je sais que vous n'avez pas vu d'OVNI.
C'est si. Possible, Bob.
Si.
J'ai encore une chose à dire. Je voudrais lire un petit mot dans votre Bible française.
Allez-y.
Dans l'Ecclésiaste, on a écrit Ecclésiaste 3:19. Car le sort des filles de l'homme et celui de la bête est pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout amitié.
D'accord. Merci en tout cas de nous avoir montré
la réponse de la Bible à votre demande.
J'ai bien compris. Alors, dernière question, Mauro, avant de vous saluer. Vous n'avez pas vu d'OVNI ? Vous n'avez pas rencontré d'extraterrestres ? Est-ce que vous seriez curieux de faire leur connaissance ?
Beaucoup, beaucoup, beaucoup.
Mille merci, Mauro, d'avoir été avec nous aujourd'hui sur BTLV. Ciao. Merci mille fois à lui d'avoir été avec nous sur BTLV. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à Anne-Sophie Breuer d'avoir assuré la traduction. C'était pas simple avec le décalage que nous avions avec l'Italie. Dans tous les cas, voilà, j'espère que ça vous aura donné une autre vision de ce que vous avez peut-être appris à l'Église, au catéchisme, en tant que vision différente des textes bibliques. Voilà, c'était notre façon à nous eh bien, de vous offrir encore une émission unique en son genre. C'était sur BTLV, Mauro Biglino. À très bientôt. We'll be right back.